Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui, premier tour depuis l'accord de paix avec les FARC et puis les dernières pour le principal artisan de cet accord de paix, le président Juan Manuel Santos. Premier tour inédit, donc la gauche colombienne a une chance de l'emporter pour la première fois au second tour, ce qui serait une première donc depuis presque un quart de siècle. Bonjour José Rodriguez.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu avec nous. Vous êtes doctorant à l'EHESS sur cette thèse, l'Église catholique et le conflit armé en Colombie. Alors les chiffres, c'est 41% au moins pour Iván Duque, le candidat du centre démocratique, c'est-à-dire la droite, contre 25% pour Gustavo Petro et son parti Colombie Humaine, le candidat de gauche. C'est donc un match inédit. D'un côté, un avocat libéral qu'on présente, quand on veut médire, comme le dauphin de l'ancien président avant Santos, Alvaro Uribe. De l'autre, un ancien maire à succès de Bogota, donc Gustavo Petro, au programme social poussé, et puis un ancien guérillero aussi. Alors Santos, juste un mot, c'était une double politique de pacification et normalisation avec les pays voisins, notamment Venezuela, mais surtout avec les FARC et les groupes armés comme ELN sur place. L'accord de paix, il y a signé il y a un an, là on le voit, un an et demi, a libéré de la place pour le débat. 5 candidats, un jeu ouvert, le retour des thèmes sociaux dans la campagne, un jeu déjà bouleversé lors des législatives du 11 mars, et un troisième candidat, on va en dire un mot, arbitre, plutôt centre-gauche. Son passage au pouvoir, donc à Petro, ferait de la Colombie une exception en Amérique latine post-bolivarienne. Comme dans d'autres scrutins, la jeunesse pourrait être arbitre. Il y a une certaine urgence économique et sociale. Une chose est sûre, ce ne sera pas la continuité, en tout cas, avec aucun de ces candidats, José Rodriguez.
Oui, c'est vrai, c'est pas la continuité, parce que si on peut dire, les grands perdants de ces élections, de ce premier tour, c'est précisément le candidat et de l'officialisme qui était pas officiellement le candidat de Santos, mais c'était Vargas Lleras. Donc on assiste à une situation complètement différente.
Ouais, cet ancien vice-président. Alors premier renseignement, peut-être c'est la participation de manière assez étonnante, très forte.
Il faut souligner que c'est depuis longtemps, et je crois que c'est un record pour la Colombie, d'avoir un taux de participation de 53%, ce qui légitime ces élections. Et ça rend aussi, disons, visible l'état aussi de paix dans le pays, disons. C'est-à-dire que dans d'autres régions qui étaient auparavant contrôlées par des groupes armés, les gens ont pu sortir, voter librement et tranquillement. Donc ça, c'est important.
Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'a remarqué le président Manuel Santos. C'est les premières élections qui se tiennent sans qu'aucun attentat ne soit commis. Un mot de Iván Duque, donc celui qu'on présente comme le Macron d'Amérique latine parce qu'il a un programme libéral à destination aussi des petites entreprises. 41 ans, ancienne consultant pour la Banque Interaméricaine de Développement. Quand on dit que c'est une marionnette ou une des cartes, comme on le présente sur les caricature de l'ancien président Uribe, quelle réalité est-ce que ça
a? On peut dire que c'est un peu le Macron dans ce sens, le Macron d'Amérique latine, sauf que Macron n'avait pas derrière lui Alvaro Uribe. Donc, dans ce sens, on peut parler de cette idée, cette image de la marionnette.
Ouais.
Et si Iván Duque, il est là, et c'est grâce précisément à Uribe. Il doit tout à Uribe.
Ouais, parce qu'il est jeune et il est sorti vainqueur des primaires de la droite, finalement, de manière assez étonnante aussi.
Exactement, oui, mais c'est grâce vraiment. Mais c'est moins son programme et plus l'influence de tout le réseau politique d'Alvaro Uribe.
Ouais, et l'influence de ces réseaux politiques, peut-être elle se voit sur un point particulier de son programme, c'est la volonté non pas de revenir sur l'accord de paix, mais de l'adapter, accord qu'il trouve injuste parce qu'il veut faire rejuger certains anciens responsables, un véritable danger pour l'accord Iván Duque.
Tout à fait, oui. Disons, il a changé, disons, au cours de la campagne. Disons, il a commencé par dire qu'il allait d'abord détruire ces accords de paix. Mais quand il s'est rendu compte que cette idée n'était pas très, très, très bien dite, donc il a passé de détruire à corriger les accords de paix. Donc aujourd'hui, il parle plutôt de corriger, mais dans la pratique, ce qu'on peut s'attendre avec Duque, c'est plutôt une espèce de blocage de la mise en place. Ce qui se passe maintenant aussi en Colombie, après la mise en place des accords, c'est une espèce de blocage aussi des accords, et on peut s'attendre à ça avec Duque comme président.
Bon, c'est une option, mais comme je le disais en introduction, c'est vrai que depuis un an et demi, donc la paix a été signée avec les FARC, ce qui libère de la place en quelque sorte appel d'air dans le champ politique. Là, il y a ce phénomène Gustavo Petro, ancien maire de gauche de Bogota, qui est monté en flèche dans les sondages quand même depuis le début de l'année. Qui est-il selon vous? À quel point il représente cette unité de la gauche colombienne, si on pense au deuxième tour?
Disons que je crois qu'il faut préciser que quand on parle, disons, la Colombie est un pays traditionnellement de droite, et c'est traditionnellement de droite précisément parce qu'il y avait les FARC, il y avait la guérilla, qui a d'une certaine manière nié le droit d'existence de la gauche politique en Colombie, qui était toujours associée à cette gauche armée. Donc quand on parle de gauche, on peut dire que Petro est un candidat de gauche, mais qui est beaucoup plus un social-démocrate, qui est beaucoup plus un candidat de centre-gauche, mais qui n'arrive pas à un radicalisme de gauche comme celui des groupes armés ou comme d'autres types de gauche en Amérique latine.
Alors il peut être porté par quoi selon vous? Simplement l'effet de vide justement laissé par cette absence des FARC et de représentation des FARC, ou réellement un mouvement convergent?
Oui, mais il y a quelque chose qui compte beaucoup sur la candidature et la popularité de Petro. C'est d'abord son charisme, la capacité que Petro a de parler clairement à un grand public particulièrement jeune, avec des sujets qui intéressent à la jeunesse. Mais aussi, c'est un candidat qui arrive à rassembler et tous les sentiments anti-uribistes qui existent dans le pays, mais aussi c'est un candidat qui arrive aussi à rassembler d'autres forces politiques traditionnelles, notamment du Parti libéral.
Oui, ce qui est une chose assez étonnante, et de ce point de vue-là, il faut dire un mot de ce troisième candidat qui arrivait vraiment à très peu derrière Gustavo Petro, c'est Sergio Fajardo, qui lui est aussi ancien maire de Medellín, et qui est comprise, ou en tout cas qui a été présentée comme une ville modèle en Colombie justement, notamment pour la réduction de la criminalité, la politique sociale également. Lui, candidat plutôt centre-gauche, véritable arbitre?
C'est un véritable arbitre parce que avec une votation de 4 millions de votes, 4 millions et demi à peu près, bah c'est pas rien, disons, pour un deuxième tour. Et qui va compter beaucoup sur le résultat du deuxième tour. C'est-à-dire, quelles seront les décisions que Fajardo va prendre? Je ne sais pas s'il va faire une alliance avec Duque ou avec Petro, mais en tout cas, c'est une situation inédite et qui montre aussi, d'une certaine manière, qui contredit plutôt l'idée ou l'image d'une polarisation dans le pays. Donc, dans un pays polarisé, je crois que il y aurait justement deux candidats. Tandis qu'ici, on a une troisième force qui est vraiment une force importante et qui est, à mon avis, décisive pour le deuxième tour.
Oui, donc si on cherche là un effet de l'accord de paix avec les FARC, c'est bien ça, un pays assez dépolarisé. Juste un point, vous parlez de Fajardo, mais mathématiquement, Fajardo, c'est 23% des sondages, Petro, c'était 25%, on arrive à 48-49%, ce qui veut dire que la gauche a une chance réelle mathématique de l'emporter en Colombie.
Par la première fois en Colombie, ça c'est clair, oui.
Bon, bah écoutez, en tout cas, premier tour hier, et puis deuxième tour dans 3 semaines, ce qui laisse quand même le temps, juste un point important à évoquer. Est-ce que Gustavo Petro est en danger? On sait qu'il s'était fait tirer dessus, sa voiture a été prise pour cible juste avant les législatives. 3 semaines, c'est long, il y a un réel danger de ça aussi?
On n'espère pas. Disons, c'est d'abord un des candidats de gauche qui est arrivé vivant aux élections. Donc on a eu dans les années 80-90 et l'assassinat des candidats présidentiels de gauche, et dans l'histoire de Colombie ça s'est passé aussi avec Jorge Eliécer Gaitán. Ouais. Et on ne sait pas, mais en tout cas la situation du pays au niveau de violence dans ces sens, c'est pas la même qu'il y a 20 ans.
Oui, et là aussi, ce sera un test en tout cas. Merci beaucoup pour aujourd'hui, José Rodriguez, doctorant EHESS. On renverra bien sûr à votre travail sur le site internet.